France Inter.
Prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Les humains, les animaux mangent, boivent, dorment, se disputent, jouent, communiquent, se reproduisent, élèvent des jeunes, vivent en groupe et nous nous sentons si proches d'eux que nous leur prêtons nos pensées et nos désirs. Il semble loin le temps où l'animal était considéré comme une machine. Dans cet épisode consacré à l'intelligence des animaux, Michel Kreutzer, qui est professeur d'éthologie, nous parlera de la sensibilité, du plaisir, de la communication des animaux. Il nous racontera ses recherches, une vie à étudier le chant des oiseaux. Nous parlerons aussi du psychisme des animaux non humains. Oui, n'oublions pas que nous, les hommes, sommes aussi des animaux. Comme les hommes, donc, les animaux sont schizophrènes, anxieux, anorexiques ou névrosés. Et dans une heure, vous vous demanderez probablement plus que jamais ce qui fait le propre de ces machins avec deux jambes et deux bras que l'on appelle les hommes ou les femmes.
Les aventuriers. Sur France Inter.
Bonjour Michel Kreutzer.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'éthologie au laboratoire d'éthologie, cognition et développement à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Les éthologues étudient le comportement des animaux scientifiquement et c'est ce que vous faites.
Oui, bien sûr. À l'université de Nanterre, les étudiants de psychologie ont des formations à la fois sur l'humain, mais également il y a la psychologie comparée et on regarde dans quelle manière il peut être utile ou intéressant de comparer les humains aux animaux, les animaux aux humains.
Nous allons donc parler de l'intelligence des animaux, comment elle est comprise aujourd'hui et comment elle était considérée hier.
L'animal le plus intelligent, après l'homme bien entendu, c'est qui l'eût cru, le rat. C'est ce que démontre le docteur Yao Sensai, professeur chinois S-psychologie à l'université de la Nouvelle-Orléans. Après cet exercice du rat qui a soif, comment en douter? Car c'est une suite de réflexes intelligents qui amène ce rat jusqu'au fromage qu'il convoite. On a voulu nous faire croire que nous descendions du singe, ne serait-ce pas plutôt du rat?
Extrait du journal des actualités françaises du 22 mai 1952, alors parler des intelligences non humaines et y consacrer une émission, c'est presque une évidence aujourd'hui, n'est-ce pas Michel Kreutzer ?
Oui, l'intelligence, c'est un terme qui est très utilisé, très utile, mais en même temps, il faut s'en méfier parce qu'il est polysémique, il recouvre énormément de choses, de processus différents. Et comparer l'humain aux animaux, du point de vue de l'intelligence, à la fois ça nous apporte des connaissances, ça nous décentre par rapport à nous-mêmes, mais il ne faut pas perdre de vue que l'intelligence des animaux n'est peut-être pas toujours tout à fait comparable à la nôtre. Et il faut les comprendre, ces animaux, pour eux-mêmes et pas simplement par rapport à nous.
Alors quand on parle d'intelligence animale, on devrait donc parler des intelligences animales. L'intelligence de la pieuvre n'est pas la même que celle de l'araignée, du chien ou du chimpanzé.
Oui, bien sûr. Et à l'intérieur d'une espèce, l'intelligence des individus en fonction du rôle qu'ils remplissent à l'intérieur du groupe. Et puis, elle est multiple, cette intelligence. Il y a l'intelligence des joueurs d'échecs, il y a l'intelligence du cœur, il y a l'intelligence qui est liée à la morale, il y a l'intelligence qui est aussi celle de la ruse, de celui qui doit essayer dans la société de se faire une place et celui, au contraire, qui cherche dans cette société de non pas avoir une place au-dessus des autres, mais éventuellement une place pour aider les autres.
Et comment aujourd'hui on mesure l'intelligence des animaux ?
Alors l'intelligence, la mesure de l'intelligence, ça c'est une question très intéressante parce que elle est très difficile à... C'est très difficile de répondre à cette question. Pour mesurer et comparer l'intelligence de différentes espèces, il faut les mettre dans des situations comparables. Quand on les met dans des situations comparables, effectivement, on a des animaux qui vont réussir parce qu'on est en train de leur poser des questions qui sont dans le domaine de leur vie habituelle, et d'autres, ces questions ne vont pas être du tout dans le domaine de leur vie habituelle. Donc déjà, quand on utilise les mêmes critères et les mêmes tests, il y a des animaux qui vont se retrouver en plus grande difficulté que d'autres. Et d'autre part, il y a une autre difficulté, c'est que si une espèce est facilement apprivoisable, ou elle peut vivre facilement en laboratoire, ce sera plus facile pour elle de répondre à ces questions qu'une espèce qui est habituellement un peu rétive au contact de l'humain, à une situation inhabituelle, et on ne mesure pas l'intelligence à ce moment-là, on mesure sa disponibilité à accepter la situation qu'on lui propose.
Il faut donc leur poser les bonnes questions.
Les bonnes questions, effectivement, et les bonnes questions pour chaque espèce, il faut la connaître, cette espèce, et voir dans quel milieu est le sien. Il y avait un biologiste, philosophe, au début du XXe siècle, Jacob Hauskull, qui parlait pour chaque espèce de son Umwelt, c'est-à-dire son monde de vie dans lequel elle est. Il parlait aussi de l'Innenwelt, c'est-à-dire le psychisme propre de chaque espèce.
On s'émerveille souvent des compétences des animaux, notamment quand ils savent compter. Est-ce que c'est en rapport avec l'intelligence ?
Ah, on peut le considérer, c'est une forme d'intelligence, mais c'est pas la seule. Et la numération a effectivement été mise en évidence chez de nombreuses espèces. On s'étonne, par exemple, des capacités que peuvent avoir les corvidés dans ce domaine. Mais les corvidés, d'un autre côté, ont des vocalisations qui sont assez pauvres, construisent des nids qui sont très...
Moche, vous me l'avez dit.
Oui, moche, c'est le terme que j'utilise habituellement, j'osais pas l'utiliser, voilà. J'ai un peu honte pour eux, parfois, de ce qu'ils font et de leur vocalisation, comparé à ce que font des oiseaux tisserins et d'autres espèces d'oiseaux qui apprennent des chants d'une très grande complexité.
Oui, mais les corbeaux savent compter, ils se servent d'outils, donc on dit qu'ils sont plus intelligents.
Oui, parce que dans ces domaines, les humains ont l'habitude de comparer ce que font les animaux à ce qu'eux-mêmes font ou de ce qu'ils ont appris à l'école, voilà. Alors, compter, utiliser un outil, c'est quelque chose qui est spécifique à l'humain et on se dit, jusqu'où peuvent-ils aller pour s'approcher de ce que nous savons faire, et ceux qui se rapprocheront le plus, on les considérera comme plus intelligents que d'autres. Par contre, des espèces savent faire bien des choses que les humains sont incapables de faire.
Nous sommes aperçus que ce chien-là observait, mais avec une attention qui n'était pas ordinaire chez un chien. J'ai donc fait une chose, je l'ai pris près de moi, je lui ai dit kiki 1, il aboyait une fois, je lui ai dit 2, etc. Jusqu'à 10, il aboyait 10 fois. Du jour où il a commencé à faire de petites opérations, il en a fait des grandes sans que je lui apprenne.
Eh bien, Kiki sait également faire des fractions.
Oui, il sait faire des fractions. Du reste, il y a une chose très simple, posez-lui donc une question.
Disons par exemple 5 cinquièmes plus 15 cinquièmes.
Tu es gentil, compte. Bien, c'est très bien, tu as raison.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Racine carrée de 4.
Kiki, le chien qui sait compter, un reportage pour le journal de France Inter du 13 août 1965. Ça vous épate ?
Qu'il sache compter, oui, ça m'épate, mais on sait... Comment ça se passe dans ce type de situation ? Généralement, il y a une attente du propriétaire qui connaît la réponse. Et quand il connaît la réponse, il a de très légers mouvements au moment où le chien devrait s'arrêter. Et le chien perçoit ces mouvements du visage, mouvements du corps, et à ce moment-là, il s'arrête. On a, comme ça, au début du XXe siècle, un cas très fameux d'un cheval qui pouvait lui aussi extraire, paraît-il, des racines carrées. Et on s'est rendu compte qu'il ne savait le faire que lorsque son propriétaire connaissait la réponse.
Michel Kreutzer, est-ce que l'intelligence est en rapport avec la taille du cerveau ?
Ah, alors le cerveau, on peut se dire que un ver de terre ne va pas être capable de faire ce que peut faire une pieuvre et que beaucoup d'espèces animales qui ont des petits cerveaux ne pourront pas faire ce que savent faire les humains. Nous sommes une espèce qui a quand même vu son volume encéphalique multiplié par 3 en à peu près 3 millions d'années. On a un encéphale qui est 3 fois plus volumineux que celui d'un chimpanzé. Bien. Cependant, on a beaucoup d'expériences qui ont été faites ces dernières années où des chimpanzés regardent un écran. Sur cet écran sont affichés dans un ordre, dans une séquence, un certain nombre d'objets ou de chiffres. Et puis après, ces chiffres sont affichés et il doit retrouver l'ordre dans lequel ça lui a été présenté. Il le fait très bien, ce que les humains ne sont pas capables de faire. On se demande pourquoi ils sont capables de faire ça. Donc, ils ont des compétences que nous n'avons pas. Et la taille du cerveau explique par la complexité des tâches que le cerveau est capable de faire, un certain nombre d'apprentissages que peuvent faire les humains, comme apprendre le langage par exemple, et que ne savent pas faire des animaux. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ramener l'intelligence uniquement à la taille du cerveau. Il y a une intelligence pratique qui est celle que chaque espèce doit savoir mettre en évidence, en place, dans le milieu où elle vit habituellement.
Mais est-ce qu'on peut comparer le cerveau des oiseaux, puisque vous connaissez bien les oiseaux, à celui de l'éléphant, qui est quand même beaucoup plus gros ?
On a le droit, on a toujours le droit de comparer. On peut regarder ce que fait un éléphant et ce que fait un oiseau. Reste que je ne sais pas si cette comparaison est très pertinente dans la mesure où les milieux de vie dans lesquels ils sont différents, les problèmes qu'ils leur posent sont différents. Effectivement, par rapport aux questions que se pose l'humain, il aura des réponses. Mais ces réponses, est-ce qu'elles offrent un intérêt dans le cadre de la vie de ces espèces habituellement ? Je ne suis pas sûr.
Je vous propose maintenant un extrait d'un livre qui s'appelle « 13 ans chez les gorilles », auteur Diane Fosset.
Avant de détacher le collet qui retenait la patte de la courageuse petite antilope, je jetais un coup d'œil aux gorilles et ne pus retenir un éclat de rire. Quatre jeunes mâles étaient assis sur une branche basse à quelques mètres de là, fascinés par ce que nous faisions. J'eus la nette impression qu'ils nous apportaient leur soutien moral. Un peu plus loin, le reste du groupe nous observait intensément à travers les arbres. Quand l'antilope fut libérée et s'échappa d'un bond, les quatre gorilles se frappèrent vigoureusement la poitrine et descendirent de leur perchoir. Leur sens de l'observation, leur curiosité m'émerveillèrent une fois de plus.
Le rire chez les animaux, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que c'est en rapport avec l'intelligence ?
Ah ! Le rire, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'intelligence. C'est en tout cas en rapport avec les plaisirs qu'éprouvent les animaux en nature. Beaucoup de théories éthologiques, notamment des théories évolutives, insistent sur le fait que ce que feraient les animaux, c'est d'abord, ce qui est important, ce serait l'utile. Utile pour pouvoir survivre, utile pour élever les petits, utile pour se reproduire, voilà, etc. L'utilitaire. Mais un certain nombre d'activités dans lesquelles ils se complaisent ne sont pas forcément toujours utiles et peuvent être simplement liées à leur plaisir de vie. Voilà. Ils ont une vie, ce que j'appelle une vie hédoniste. Et on connaît beaucoup d'espèces qui sont capables, dans leur milieu naturel, de faire des détours pour aller consommer des substances qui sont psychoactives, des hallucinogènes. Et ces hallucinogènes n'ont pas que des effets bénéfiques. Voilà, ils ont des effets viscéraux qui les gênent, parce qu'ils vont vomir pour dire les choses comme elles sont. Et cependant, ils le font. Alors, ils explorent sans doute à travers cela leur imaginaire, on pourrait dire. Et les animaux ont une vie également, comme vous le disiez, une vie de plaisir, une vie hédoniste.
journée de travail. C'était Suzanne Delhomme et Gatien.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Il existe des critères qui permettent aux philosophes de montrer que les animaux ont part à la raison, à savoir les projets, les préparatifs, les souvenirs, les passions, le soin qu'ils prennent de leurs petits, la reconnaissance pour les bienfaits, la rancune contre les causes de douleur, ainsi que l'aptitude à trouver ce qui leur est nécessaire et la possession évidente de vertus comme le courage, la solidarité, la maîtrise des désirs ou la grandeur d'âme.
Plutarque s'intéressait déjà à l'intelligence des animaux il y a presque 2000 ans. Ce texte serait presque d'actualité, Michel Kreutzer.
Oui, quand on regarde les animaux, il y a des regards un peu empiriques ou savants qui ne changent pas avec les siècles. C'est en quoi nous sont-ils semblables, en quoi nous sont-ils différents? Et là, d'où nous viennent ces désirs, d'où nous viennent ces jalousies, d'où nous viennent cette empathie? Ben voilà, elle existe peut-être en grande partie avant nous chez les animaux et nous n'avons fait qu'en hériter. Alors, tout observateur attentif de la nature et des animaux en nature a pu constater un certain nombre de comportements qu'il a réinterprétés à travers une grille, qui est la grille que l'on applique habituellement aux humains. Avant Plutarque, il y a déjà Aristote qui est sur cette voie.
Alors les humains apprennent, les animaux apprennent aussi. Est-ce que les animaux se transmettent des choses de génération en génération?
Alors il y a des traditions. Un des premiers cas de tradition que je connais bien, parce que j'ai participé à sa découverte, c'était la tradition orale chez les oiseaux, où les oiseaux d'une même espèce ne chantent pas tous exactement les mêmes chants. Et dans certaines régions, il y a ce qu'on appelle des dialectes. C'est-à-dire tous les individus partagent à peu près le même répertoire. Et ceci se transmet de génération en génération. Donc il y a des transmissions orale de certaines façons de chanter. Il y a des traditions aussi que l'on a découvertes chez les animaux dans l'usage de certains outils chez les chimpanzés, les brindilles pour pêcher des fourmis et des termites, l'usage des pierres et des morceaux de bois pour casser des noix. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça suffit d'avoir une tradition pour pouvoir dire que l'on a affaire à une culture? Alors, des fois, les éthologues parlent de protoculture. Alors, les animaux auront des protocultures, en communication, ils auraient des proto-langages, ils auraient des proto-morales. On a l'impression parfois que les animaux aspireraient à devenir humains à travers toutes ces proto-quelque chose qui sont des compétences qu'ont les humains. Alors, pour ce qui est de la culture et revenir à la culture, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que le mot culture peut être utilisé. En revanche, ce que l'on ne sait pas très bien encore, c'est s'il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire si une génération s'approprie ce que faisait la génération précédente, de quelle manière elle se l'approprie? Est-ce une instruction de la génération précédente sur la génération suivante? Ou est-ce que c'est une génération qui va rechercher dans ce que fait la précédente un certain nombre de choses qu'ils ont envie d'imiter et de faire? Et éventuellement, l'effet cumulatif, ce serait de l'améliorer de génération en génération. Alors ça, beaucoup de recherches éthologiques sont tournées sur cette question actuellement.
Et on n'a pas la réponse.
Si on commence à avoir des réponses sur des chimpanzés, dans la recherche de lieux où il y a des ressources de miel, dans des réserves souterraines, on sait que les outils qui sont utilisés ont pu être améliorés peut-être en quelques générations. Alors là, il y a beaucoup de travaux actuellement sur cette question, parce que ce serait à nouveau une très grande découverte de montrer qu'il y a des effets cumulatifs. Ah, on n'en est pas à ce que font les humains. Mais voir que les effets cumulatifs existent déjà, ça montrerait que la prédisposition à l'accumulation de génération en génération de connaissances existe aussi chez l'animal.
Qu'est-ce qu'on sait du langage des animaux? On parle beaucoup du langage des dauphins, du langage des baleines, du langage de certains singes.
Alors, j'ai travaillé sur la communication animale et j'ai toujours utilisé le terme de communication et très rarement le terme de langage.
Ah, pardon, je suis désolé.
Ah non, mais vous pouvez l'utiliser. J'ai beaucoup de mes amis et éthologues qui utilisent le terme de langage. Vous avez raison, on peut l'utiliser et des linguistes disent fort pertinemment qu'on peut l'utiliser parce que dès l'instant, sans être très savant, où vous avez un signe qui désigne quelque chose quand dans le milieu, les linguistes parlent d'insignifiant et signifié, on est autorisé à parler de langage. Donc ça, effectivement, ça existe chez les animaux. Maintenant, des animaux qui se livrent à des narrations sur le passé, le présent et l'avenir, je ne pense pas qu'il en existe beaucoup. Donc, ils ont des... Alors là aussi, on pourrait dire qu'ils ont des proto-langages. Autrefois, il y avait un collègue qui travaillait sur le champ des oiseaux qui disait que dans le domaine de la communication, il fallait distinguer le domaine de l'interaction, celui de la communication et du langage. Ça permettait de faire des distinctions. Parce que dès l'instant où on a parlé de langage, comme vous disiez, ça amène à dire, oui, ils ont un langage, mais c'est pas exactement comme tel autre langage, le nôtre, etc. Donc, dès l'instant où on utilise un terme générique très large, on est immédiatement amené à faire à nouveau des distinctions. C'est pour ça que je fais la distinction dès le début et j'utilise peu le terme de langage. Mais ça ne me gêne pas, c'est juste quelque chose de tout à fait personnel. Là.
Il n'empêche qu'on a tous envie de comprendre ce que dit son chat, son chien, un cheval, une vache, et l'intelligence artificielle promet de décrypter ce langage.
Ça, je ne sais pas, parce que dans les années 60, j'ai bien connu le directeur d'un laboratoire d'acoustique qui s'appelait René Guy-Busnel et qui travaillait déjà sur les dauphins et qui cherchait à casser le code. Les dauphins. Il n'y est pas arrivé. Il avait étudié les langues sifflées chez les humains, en pensant que, voilà, il y avait peut-être là une façon qui pourrait se rapprocher de ce que faisaient les dauphins. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, tous les collègues qui travaillent encore sur les dauphins et les baleines s'aperçoivent qu'ils échangent des signaux extrêmement complexes. Mais est-ce qu'ils se racontent quelque chose? Est-ce qu'ils se disent quelque chose exactement? Quel est le contenu du message? Et quel est le code pour comprendre ce message? On ne l'a toujours pas cassé, ça.
Mais on aimerait bien le savoir, en
tout cas.
Ah oui,
bien sûr.
Alors, voici une archive spécialement pour vous, l'extrait d'une émission diffusée en 1951. Vous travaillez sur les oiseaux chanteurs et voici l'histoire d'un oiseau qui chantait.
Les légendes sont nombreuses qui traitent du sens musical des animaux. Je voudrais vous citer un cas assez convaincant, à mon humble avis, du sens musical et surtout d'oreille musicale chez un animal qui compte certainement parmi les plus musiciens, le rossignol aux cordes vocales absolument extraordinaires. C'était il y a 3 ans, en 1949, au second festival d'Aix-en-Provence, au soir de la première représentation du Don Juan de Mozart, en plein air dans la cour de l'archevêché. La musique de Mozart, les ayant réveillés, un rossignol, particulièrement attentif sans doute, se piqua au jeu mélodique. Lorsque Madame Émile Louze, de sa ravissante voix de soprano léger, attaqua l'air de Zerline, notre rossignol se mit soudain à l'unisson. Et l'on put, urbi et torbi, entendre d'ailleurs en écho les trilles et les vocalises écrits par Mozart, repris, chose assez curieuse, par le roi des chanteurs à plumes. Sur l'orchestre, en fond sonore, le rossignol, à gosier ouvert, s'en donnait à cœur joie. Et, chose extraordinaire, c'était juste.
Elle est pas belle, cette histoire, Michel
Kreutzer? Oui, elle est magnifique. J'aurais voulu être présent parce que j'ai quelques...
Doutes?
Interrogations. Oui. Alors, je ne sais pas quel est celui qui a observé, écouté. Ça me fait penser un peu à ce qu'aurait pu dire Olivier Messiaen, qui adorait les oiseaux et composait à partir de leur chant. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai un léger doute. C'est la raison suivante. C'est que lorsque deux oiseaux ont exactement le même répertoire, les mêmes chants à leur répertoire, on ne les entend jamais chanter en chœur. Il y a des chœurs d'oiseaux, mais ils chantent tous leur affaire, mais sans un ordre particulier. Or, chanter en chœur, c'est quelque chose qui est particulier à l'humain. Donc que là, un rossignol ait pu retrouver dans son répertoire quelque chose qui existait déjà, qui ressemblait à ce qu'il a entendu, ça ne m'étonne pas trop. Éventuellement, il a pu aller chercher ce qu'il y avait dans son répertoire et contre-chanter. Mais qu'il ait pu chanter à l'unisson, avec la musique, ça, j'aurais aimé assister à cela.
Alors, vous avez passé votre vie à étudier le chant des oiseaux. Qu'est-ce que vous avez cherché? Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, il s'agissait au départ d'essayer de tester certains attendus des théories objectivistes de Konrad Lorenz et Tinbergen. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il pensait que dans les signaux qui sont émis, il y avait différentes parties et que chaque partie avait une fonction particulière. Et je recherchais dans les chants si une partie du chant, début, à la fin, au milieu, pourrait être utilisée pour s'adresser, par exemple, un mâle s'adresser au mâle, une autre partie pour s'adresser aux femelles, une autre pour s'adresser à ses voisins, etc. Et ce genre de recherche a totalement échoué. Et ça nous a permis de mettre en doute certains attendus des théories objectivistes. Par contre, ça nous a permis de travailler avec une autre théorie qui était la théorie de la communication de Shannon. Donc c'était extrêmement théorique. Voilà. Nous avions des grilles et nous voulions confirmer ou infirmer ce que disaient les théories. Parce que ce que découvre un chercheur, c'est que lorsqu'il va sur le terrain, eh bien, il se dit, c'est ce que je me suis dit, si les oiseaux ou si un tel animal connaissait les théories éthologiques, jamais il ne se comporterait comme cela. C'est ça qui est très amusant. Et se dire que, tiens, C'est pas à ça que je m'attendais. Et à confronté à quelque chose qui n'est pas ce à quoi on s'attendait, eh bien, on se dit qu'il y a encore du travail à faire. Ça permet aussi de venir contredire ce qu'ont fait ceux qui vous ont précédé. C'est aussi quelque chose de très agréable dans la vie.
Vous êtes donc allé sur le terrain maintes et maintes fois.
Oui, pendant 20 ans, j'ai étudié 2 ou 3 espèces d'oiseaux. Et puis ensuite, pendant 20 autres années, j'ai étudié au laboratoire à nouveau le chant des oiseaux. Alors, durant les 20 premières années, j'ai étudié les interactions qu'il pouvait y avoir entre les mâles et les raisons pour lesquelles ils chantaient de telle et telle manière. Et surtout, dans leur chant, quels étaient les paramètres qui étaient importants. On enregistre, on vient au laboratoire, on déforme les signaux acoustiques, on leur diffuse aux oiseaux. Et on regarde s'ils réagissent ou pas, s'ils reconnaissent les chants ou pas. Autrement dit, on cherche ce à quoi ils s'intéressent quand ils écoutent des chants. Les 20 autres années après, suite au laboratoire, ont été consacrées à l'étude de la manière dont les femelles entendaient ces chants. Parce qu'en nature, quand vous diffusez des chants, les femelles réagissent peu. Par contre, au laboratoire, je ne vais pas passer les détails, on avait les moyens de voir un peu comment elles allaient réagir. Et on a pu tester les préférences des femelles pour certains types de chants.
C'est ce que vous avez découvert ?
Alors, ce qu'on a découvert, c'est que les femelles, généralement, préfèrent les chants des mâles qui sont les plus difficiles à chanter ou qui sont les plus diversifiés. Voilà. Il faut être habile pour plaire aux femelles chez les oiseaux. Il faut avoir de la virtuosité.
Dites-moi, monsieur Monjoin, votre jeune de 21 ans, là, vous l'avez trouvé où ?
J'ai trouvé à Saint-Malo.
Et comme ça, par hasard, il y a combien de temps qu'il est votre enfant ?
Ça fait 9 ans.
9 ans, donc vous l'avez eu à 12 ans. Il a progressé depuis 12 ans.
Eh ben, ça devait faire 22 ans maintenant comme âge.
Comme âge.
Oui. Écoute, fais la cocotte là. Hein? Et le chien.
Miaou.
Ouh, ouh, ouh.
Miaou.
Chante maintenant. Hein? Écoute.
Est-ce que l'imitation est un signe d'intelligence, entre guillemets, Michel Kreutzer ?
Alors, l'imitation, c'est un signe d'adressage. On a les mêmes chaussures, t'es mon copain, on chante la même chose, on est dans interaction l'un avec l'autre. Est-ce que c'est toujours un signe d'empathie ? Parfois, oui. Pas toujours. Chez les oiseaux, lorsqu'un oiseau chante et que son congénère ou que son voisin chante, reprend la même chose, ça peut être le prélude à une relation de combat, on utilise le terme agonistique. Chez les humains aussi, mettez-vous en face de quelqu'un, dans le métro, imitez-le à chaque geste, vous verrez qu'il n'est pas forcément content. Alors que ça peut être, entre amis, quelque chose qui est habituel, on change de posture, l'ami change de posture, etc. Il dit quelque chose, on reprend les mêmes termes. Donc l'imitation, c'est un adressage.
Et dans un instant, si vous en êtes d'accord, on va parler de la vie psychique des animaux.
Ah, bien sûr.
Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux. Et à nouveau, un sifflement pour se dire adieu. Les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. C'est une île de paradis. siffle aussi. Le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le silbomero.
On écoutait Féloche, Silbo.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Michel Kreutzer, si on parlait de la conscience et de la sensibilité des animaux, quelle est la conscience des animaux? Est-ce qu'ils en ont une?
Oui, je pense qu'elle existe et qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Le test qui a les faveurs des éthologues et des psychologues animalistes, c'est le test du miroir. Voilà, on met un animal face à un miroir. Précédemment, on lui a mis une tâche qui ne peut pas la percevoir autrement qu'à travers le miroir. Et là, on voit si l'animal porte sa main ou porte sa patte sur cette tâche pour essayer de la retirer et en se regardant.
Beaucoup d'animaux réussissent
oui,
ce test.
Oui, on en trouve de plus en plus. Certains, de manière bizarre, parfois ne réussissent pas, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais c'est le test habituel. Maintenant, dès l'instant où vous avez un animal qui est en nature et qui est en plein soleil, vous le voyez regarder autour de lui, il perçoit un bouquet d'arbres, il y a de l'ombre, il s'y dirige, il est difficile d'imaginer qu'il n'a pas conscience que là-bas il sera mieux qu'à l'endroit où il était. Donc, il y a une conscience pratique qui existe. La conscience, comme beaucoup de termes, c'est un terme polysémique, donc il y a différents niveaux de conscience. Bon, est-ce qu'ils ont une conscience morale, etc. Là, c'est une question qui serait beaucoup plus difficile que simplement dire est-ce qu'ils ont une conscience.
Si je vous pose la question est-ce qu'ils ont une morale, vous ne pouvez pas répondre.
Si, il y a des collègues dans mon laboratoire qui travaillent sur cette question. Dalila Beauvais travaille sur la question morale, mais c'est pas facile de travailler sur la morale des animaux. La plupart des travaux qui portent sur la morale des animaux montrent qu'ils ont de l'empathie, c'est-à-dire que face à la souffrance des autres, ils ont des réactions. Vous l'aviez signalé tout à l'heure avec ces gorilles qui regardaient cette antilope et qui avaient l'air de se réjouir quand ils la voyaient être libérée. Eh bien, l'empathie chez les animaux est souvent portée sur les animaux du groupe ou des animaux avec lesquels ils ont des relations affectives ou des relations hiérarchiques qu'ils simulent ou qui sont véritables. Mais ça ne s'étend pas guère à tous les individus de l'espèce. Alors que notre morale nous dit que nous devons traiter tous les individus de l'espèce de la même manière. Donc, il faudrait définir exactement ce que l'on voit et ce que l'on entend par morale. Et ce que l'on va rechercher comme preuve de la morale chez les animaux. De l'empathie, oui, bien sûr.
Oui, il y a beaucoup d'histoires d'animaux qui semblent très attristés par la mort d'un partenaire, par exemple.
Voilà, un partenaire, oui, bien sûr. Notamment dans les espèces où les individus ont de forts liens dans le cadre de la monogamie. Ou bien des mères vis-à-vis de leurs jeunes. Un individu vis-à-vis d'un compagnon, un copain avec lequel il avait l'habitude de vivre et qui d'un seul coup disparaît, s'adonner à ce moment-là à quelque chose qui est du type de l'anorexie, oui, et se laisser dépérir.
Alors on sait que les animaux jouent et qu'ils sont même capables de faire semblant.
Ah, faire semblant. Oui, alors faire semblant et jouer, c'est pas forcément exactement la même chose. Par exemple, ils savent mentir, voilà. Ils savent tromper. On sait par exemple que lorsqu'il y a de la nourriture à un endroit et qu'il y a beaucoup d'oiseaux, un oiseau peut arriver, pousser un cri d'alarme. Comme on pousse un cri d'alarme quand habituellement il y a un prédateur, tout le monde se sauve et celui qui a poussé le cri d'alarme, sachant qu'il n'y a pas de prédateur, il descend et il peut consommer à ce moment-là la nourriture qui est au sol. Ils jouent, oui, beaucoup d'espèces jouent. Il reste à savoir si, lorsque les animaux jouent, le jeu a toujours posé des problèmes aux éthologues parce qu'ils n'en voyaient pas exactement la finalité. Si on part de l'idée que les animaux sont des êtres hédoniques, c'est beaucoup plus facile. Mmh. À partir du moment où on se dit qu'ils ne font que des choses utiles, c'est beaucoup plus difficile de comprendre le jeu. Or, le jeu a souvent été interprété comme une préparation à la vie adulte. Voilà, des schémas moteurs, plus tard, adulte, on aura à vivre ça et ça, et on s'y prépare dans ces relations de jeu. Mais il peut y avoir un plaisir du jeu, rien que pour le plaisir de l'action, sans que cette action ait elle-même une finalité immédiate.
Prenez un rat. Si cela ne vous fait pas peur, obligez-le à réduire considérablement ses activités habituelles et très vite vous pourrez constater qu'il décline physiquement et intellectuellement. C'est une des observations faites à la Faculté des sciences de Paris par le professeur Soulérac et son assistant, M. Lambert. Une étude qui leur a prouvé que l'environnement était un facteur important de l'évolution de l'intelligence chez les rats.
Extrait du journal télévisé du 14 février 1974. Michel Kreutzer, on sait maintenant que la vie en société est indispensable pour un bon développement.
Oui, bien sûr, mais ça me fait très plaisir d'entendre cet extrait parce que Soulérac et Lambert furent mes enseignants à l'université de Paris, à la faculté des sciences, donc je les ai très bien connus. Alors, les rats, c'est une des espèces chez laquelle on a montré récemment qu'elles pouvaient rire, mais rire, il y a des vocalisations, ils sont sur le dos, on leur gratouille le ventre, et dans les ultrasons, il y a des sons émis qui montrent vraiment qu'ils sont en train de se réjouir de cette situation. Et d'autre part, récemment, il y a des collègues qui ont montré qu'on pouvait amener les rats à jouer à cache-cache. Non seulement à nous retrouver quand on se cachait, mais également à aller se cacher et puis obliger celui qui est leur comparse à aller les trouver et changer de lieu et attendre sur le dos qu'on leur gratouille le ventre quand ils ont été retrouvés. Donc on peut se livrer à de véritables jeux avec les rats.
Avec des compétences qui sont proches des nôtres, les animaux peuvent être, comme nous, sujets à la folie. Vous avez écrit un livre sur le sujet. Je vous propose cette archive à propos de la névrose chez les animaux. Ça date de décembre 1981.
La névrose chez les animaux, ça n'est pas une légende, ça peut exister. Mais d'abord, cliniquement, ça se voit. Un animal névrosé, il a des tics nerveux, il a de l'automutilation parce qu'il est isolé. Ça se voit, ce sont souvent des animaux qui ont été élevés par les gens et qui sont réintégrés dans les groupes. Par exemple, un singe va avoir tout un apprentissage. Il a des mimiques qui lui sont innées, puis il va apprendre à les utiliser. Quand il vit avec les gens, il ne sait pas les utiliser. Quand on les met dans nos groupes, qui ont quand même une vie sociale, quand on va commencer à l'attaquer, il va répondre par une forme d'attaque. Alors il se fait bouffer sans avoir compris, j'allais dire. Il y a effectivement peu de choses à faire, pas plus que dans la névrose humaine, c'est assez difficile. Il faudrait les changer de milieu. Pratiquement, il faut les redonner aux particuliers. C'est ça la névrose.
Vous avez reconnu la vétérinaire Marie-Claude Baumsel du Jardin des Plantes et c'était donc en 1981. Est-ce qu'on peut parler du psychisme chez les animaux ?
Ah oui, l'éthologie, elle s'est développée justement en voulant écarter le psychisme. On s'est rendu compte que finalement, ces comportements, comme disaient certains auteurs autrefois comme Romanès, sont des ambassadeurs du mental. Autrement dit, en les voyant se comporter, on a là quelque chose qui affiche une partie de leurs activités mentales. C'est ça qui est très intéressant. Et on ne peut pas écarter le psychisme, je le disais tout à l'heure avec l'hédonisme, avec l'intelligence, pour comprendre la vie de relation des animaux.
Il y a donc des animaux anorexiques, mélancoliques, des animaux avec des troubles autistiques, des animaux schizophrènes, des serial killers.
Alors là, vous dites beaucoup de choses. Oui, alors schizophrène, je ne sais pas, des serial killers, ça c'est à voir. Autiste, mon ami Pierre Roubertou, généticien, oui, me le dit. Et il fait des études sur des modèles animaux de l'autisme. En fait, je m'arrête un instant sur les serial killers. J'ai lu plusieurs fois qu'on disait par exemple que les serial killers existaient chez les animaux et qu'un bon exemple c'était les lions. Parce que chez les lions, lorsqu'il y a des mâles qui sont dans un groupe avec des femelles, ces mâles sont parfois virés de ce groupe dans lequel ils étaient par de nouveaux mâles et ces nouveaux mâles qui s'installent tuent tous les jeunes. Jeunes mâles comme les jeunes femelles. Une des raisons, c'est que les femelles, à ce moment-là, reviennent en oestrus et rapidement copulent avec tous ces nouveaux mâles.
Oestrus, elles sont prêtes à être fécondées.
Elles acceptent de copuler avec les mâles. Parce qu'il y a très peu d'espèces où les femelles acceptent de copuler continuellement avec les mâles. Elles, généralement, la plupart des espèces, les femelles n'acceptent de copuler avec les mâles que durant les périodes où elles sont fertiles. Donc, tous les lions font ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les mâles lions sont des serial killers ? Difficile d'imaginer une espèce chez laquelle on dirait que tous les mâles sont des serial killers. En fait, ça fait partie de leur vie habituelle. Mmh. Alors, il y a des espèces où des infanticides ne sont pratiqués que sporadiquement par quelques individus particuliers. Là, on peut s'interroger, c'est pas la vie habituelle et normale au sein d'une espèce de tuer les jeunes. Donc, il y a des cas où on peut parler d'infanticide. Les infanticides chez les animaux, à cette différence des humains, ont ceci quand même, c'est que chez les humains, il y a beaucoup d'infanticides dans des familles sur leurs propres jeunes. On voit des mères qui tuent leurs propres jeunes ou des pères qui tuent leurs propres jeunes. Chez les animaux, généralement, on tue les jeunes d'autres individus, pas ses propres jeunes. J'attire votre attention sur un fait, parce que cette question m'a été posée récemment. On parlait beaucoup chez les humains de féminicides. On me demandait, chez les animaux, il existait des féminicides. C'est assez peu noté. Et la question se pose, pourquoi chez les animaux, il y aurait peu de féminicides? Moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait pas, parce que les femelles sont certaines théories éthologiques ont appelé des ressources rares dans la mesure où elles sont beaucoup moins d'ovules que les mâles n'ont de spermatozoïdes. Donc, du point de vue de l'espèce, elles sont une richesse rare. Alors que les rares moments où elles sont fertiles, elles sont absolument indispensables. Donc on ne tue pas des êtres qui sont indispensables. Voyez.
Mais pour revenir au psychisme des animaux, est-ce qu'on peut parler de folie animale ?
Alors, moi je parle de folie animale parce que, d'abord, cette question m'a été posée toujours par mes collègues en psychologie à Nanterre et mes étudiants, c'est est-ce que les folies qui existent chez les humains ont quelque chose de comparable chez les animaux ? Il faut dire que quand je suis arrivé à Nanterre, en 1970, en psychologie, il régnait en grand maître les idées de Jacques Lacan sur l'humain en tant qu'être de parole. Et grâce à la parole, l'humain se distinguait de toutes les autres espèces animales. Donc, je me suis intéressé à cette question. Est-ce que les animaux présentent des folies ? La folie, d'une certaine manière, elle est normale. Entrer en fureur parce qu'on n'est pas content, on est en colère, l'animal est dans un espace qui ne lui convient pas, ou bien il vient de perdre un compagnon, il déprime, ce sont des folies ordinaires. Par contre, la démence, comme vous le soulignez, la schizophrénie, l'autisme, est-ce que ce sont des spécificités humaines ? Je ne le pense pas, mais comme elles sont assez rares, il faudrait bien les rechercher chez les animaux. Et je pense que si on les recherche, à partir du moment où on pose une question, on trouve les réponses. En revanche, comme dans l'extrait que vous me faisiez entendre, des névroses, il en existe. Dès l'instant, quand on est sous l'emprise des humains, l'emprise des humains qui vous placent, qui vous ont domestiqué, qui vous placent dans des zoos, qui vous placent dans des situations extrêmement inconfortables, très différentes de celles qui sont le milieu de vie des animaux, eh bien, on les contraint et c'est pour eux de très grandes difficultés à vivre dans ces conditions-là. Donc on fait apparaître des troubles qui peuvent être des troubles de type névrotique et qui ressemblent beaucoup à ceux que peuvent avoir les humains quand ils sont également sous l'emprise d'autres êtres, ou les humains sous leur propre emprise de leur inconscient et des images et des représentations qu'ils peuvent avoir.
Avant de parler des rêves, Michel Kreutzer, je vous propose un texte adorable de Jane Goodall, connue pour son engagement auprès des chimpanzés, mais qui, petite fille, était fascinée par un chien.
Lorsque je me rappelle mon enfance, je songe d'abord et surtout à Rusty. Rusty m'a fait comprendre énormément de choses sur le comportement animal. C'est lui qui m'a appris que les chiens étaient capables de raisonnement. Par exemple, si je jetais une balle par une fenêtre de l'étage, il commençait par regarder où elle avait atterri. Ensuite, il aboyait pour que je lui ouvre la porte. Rusty est également le seul chien que j'ai connu qui semblait avoir un sens de la justice. Si je me fâchais pour quelque chose qui lui semblait correct, il boudait. Par exemple, je lui avais appris à fermer la porte en se dressant sur ses pattes de derrière. Un jour, il ferma la porte avec des pattes toutes humides et boueuses, et sans que je le lui ai demandé en fait, il réclamait mon attention. « Oh, Rusty, vilain chien !» me suis-je exclamé. Rusty m'a regardé, puis il est allé s'asseoir face au mur, me tournant le dos, et n'a pas bougé. Même lorsque j'ai crié « Promenade !» Il a fallu que je m'agenouille près de lui et que je lui demande pardon pour qu'il consente à quitter sa place et à redevenir petit à petit amical.
Elle est jolie cette histoire.
Oui, bien sûr, elle est très jolie. On voit que dès sa plus tendre enfance, Jane Goodall a été attirée par les animaux. Elle est partie en Afrique, je me souviens bien, dans le National Geographic, dans les années 60, les comptes rendus qu'elle faisait de ses premières activités.
Michel Kreutzer, vous aviez promis de parler des rêves des animaux.
Oui, les rêves des animaux. Alors, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles je suis consacré à l'étude des animaux vient des travaux qu'avait fait Jouvet sur les rêves. Je m'explique. Je faisais des études de neurosciences. Il y avait peu d'études d'éthologie à la Faculté des sciences de Paris, à l'époque où j'y étais. Et Jouvet avait montré que, durant une certaine phase de sommeil, dite paradoxale, chez les chats, si on détruisait un certain noyau, à ce moment-là, on pouvait les voir exprimer le contenu de leurs rêves. Et je m'étais intéressé à ces rêves, m'intéressais également au sommeil des animaux. Et les rêves, ils ont été depuis découverts chez beaucoup d'autres espèces, notamment chez les oiseaux. On sait que chez les oiseaux, durant la nuit, dans des phases très courtes de sommeil paradoxal, il y a des structures nerveuses qui répètent, semble-t-il, tous les chants qu'ils ont entendus et que les oiseaux ont chanté dans la journée. Donc c'est une manière sans doute de les mémoriser. La fonction du rêve, facteur de mémorisation ou expression des comportements que les auteurs appelaient innés, est tout à fait pertinente. Pas facile à explorer, mais
difficile à étudier.
Mais je partage avec Jouvet l'idée que dès l'instant où un animal rêve, alors c'est une porte possible, ouverte également vers des dysfonctionnements psychiques et la folie.
Snowman, c'était Blonde Redhead.
Les aventuriers sur France Inter.
Le rapport d'un chien qu'on aime, qu'on comprend bien, c'est pas tellement différent du rapport qu'on a avec un ami. Il y a un dialogue qui s'établit, assurément un dialogue. Par exemple, avec Jules, je sais très bien que quand j'ai travaillé un bon moment, Jules vient mettre une patte sur mon genou et son langage est clair. C'est « Bon, tu as travaillé suffisamment, on joue ». Le langage existe, je crois. Après qu'on a un chien depuis 2 ans, il y a quand même un minimum de phrases qui s'échangent. Un chien normalement intelligent comprend 200, 250 mots. Quand on pense que ce qu'on appelle le basic language chez les Français, par exemple, chez les moyens des Français, s'établit à l'utilisation de 350 mots environ, ça fait presque un rapport humain.
Extrait de l'émission Entre chien et chat, diffusée le 7 décembre 1975 sur France Inter. Quelque chose est vraiment en train de changer dans notre rapport aux animaux, Michel Kreutzer. Vous voulez réagir sur cette archive ?
On a une autre façon de les regarder. Un autre type de relation. Je pense que c'est venu à partir du moment où on s'est rendu compte que les animaux étaient capables de souffrir. À partir de là, ça donne d'autres responsabilités. Avons-nous le droit de les mettre dans des situations qui sont pénibles pour eux ? Pas simplement les animaux domestiques, les animaux d'élevage et les animaux de laboratoire. Jusqu'où avons-nous le droit d'intervenir, par exemple, en nature ? Moi, en tant qu'éthologue, la question m'a été posée récemment. Des choses qui nous paraissent anodines et sur lesquelles on ne réfléchissait pas il y a encore 40 ans. Ben, vous allez en nature, vous diffusez un chant à un oiseau, vous êtes en train de lui faire croire qu'il y a un congénère qui vient le contester dans l'espace où il vit. Donc, d'une certaine manière, vous le stressez. C'est une question qui est importante parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, on peut diffuser à tout oiseau qu'on entend un chant et le faire réagir. Donc, jusqu'où avons-nous le droit de les perturber dans leur vie, là où ils sont en nature ? Ça, c'est une question qui mérite réflexion. J'attirais votre attention sur les travaux de Jane Goodall, que j'admire. Jane Goodall, pour observer ses chimpanzés, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis de la nourriture, elle a donné des bananes, etc., pour les faire sortir un peu et les avoir sous les yeux. Sinon, ils seraient restés en forêt, elle ne les aurait pas vus. Il fallait faire sortir de cet espace. Les Japonais qui ont étudié les cultures animales, notamment, vous le citiez tout à l'heure, ceux qui lavent les patates douces, on leur a donné des patates pour montrer qu'ils allaient apprendre à les laver et que ça allait se transmettre de génération en génération. Vous allez dans n'importe quel jardin public aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ? Il est interdit de jeter de la nourriture aux animaux. Autrement dit, dans des expérimentations qui sont toutes simples en nature, que l'on fait naïvement, innocemment, on s'aperçoit qu'il y a également des questions à se poser. Donc, quels sont nos droits et jusqu'où avons-nous le droit de perturber la vie des animaux ?
Et les premiers éthologues ne se posaient pas ces questions ?
Ah, en nature, non. Vous avez là la rencontre entre deux types d'éthique. Une éthique de la connaissance qui est « nous avons le droit de connaître et nous devons connaître, augmenter nos connaissances ». Et puis une éthique de l'action pour connaître « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?»
Michel Crotzer, vous êtes éthologue. Qui sont les premiers éthologues ? À partir de quand on s'est intéressé à tous ces sujets ?
L'éthologie, comme je le dis dans l'ouvrage que j'ai déjà, que sais-je, sans doute l'observation des animaux, elle est très ancienne. Pour chasser, pour les capturer, les humains ont dû comprendre leurs mœurs. Mais le terme éthologie, une étude scientifique des animaux, cela commence, à mon sens, au XIXe siècle avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui était le responsable du jardin d'acclimatation à Paris et qui avait défini un certain nombre d'observations et de programmes de recherche qu'il faudrait réaliser pour constituer une science éthologique. Simplement, il n'a pas eu le temps de le faire, il est mort assez jeune, et il s'est beaucoup occupé du jardin des plantes. Donc le terme vient du XIXe siècle. Après, voilà, il y a de nombreuses personnes qui ont étudié le comportement animal, mais la renaissance de l'étude du comportement des animaux en nature, quelles que soient les théories qu'ils aient développées, qu'on délaisse en partie aujourd'hui, c'est sans doute quand même Konrad Lorenz et Nico Tinbergen qui furent récompensés avec von Fritsch par un prix Nobel au début des années 70.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité à la mode, ou bien est-ce qu'on est passé à autre chose ?
L'éthologie ?
Oui.
Ah, mais je pense qu'elle est au centre des intérêts d'abord du public, qui s'intéresse de plus en plus aux animaux. On le voit actuellement à travers le nombre de publications qui sont consacrées aux animaux. Je pense que les humains ne savent plus forcément très bien exactement qui ils sont, où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Alors, d'un côté, on leur promet de se libérer de cette condition humaine difficile, peut-être à travers le transhumanisme, qui ne fait pas rêver beaucoup de monde. D'un autre côté, il y a les animaux. On est sur cette planète, on partage cette vie sur cette planète, et il y a des menaces. Et je pense qu'on se sent de connivence, on se sent en même temps que dans le même bateau, qui n'est pas forcément une arche de Noé, mais un bateau sur lequel il y a des risques. Il y a des risques à naviguer sur cette terre avec eux et que leur condition est aussi un peu la nôtre.
Avec de nouvelles questions éthiques qui n'étaient pas d'actualité peut-être encore au XIXe siècle, comme les zoos, les animaux de laboratoire, la corrida.
Oui, parce que c'est l'animal que l'on donne en spectacle. Jusqu'où avons-nous le droit de donner un animal en spectacle ? Alors, cette question se pose actuellement à travers les publicités qui utilisent des animaux. Et bien sûr, la question que vous évoquez, celle de la corrida, qui est une question... Oui, parce que parfois, la question qui... Pour l'interdire, un certain nombre de personnes disent « Oui, mais ce taureau, il souffre. » Quel que soit... Alors, certains disent « Non, mais c'est pas sûr qu'il souffre à ce point-là. » Mais la véritable question, c'est « Avons-nous droit de donner en spectacle la mort d'un animal ?» Voilà. Et que ce soit quelque chose de réjouissant.
Ce que je retiens de cette émission, c'est que les animaux sont des êtres sensibles. Je n'avais peut-être pas besoin de vous rencontrer pour en être persuadé. Ils perçoivent leur environnement, ils ressentent la douleur. Mais finalement, qu'est-ce qui fait le propre de l'homme ?
Ah, le propre de l'homme. Alors là, c'est une question à laquelle il sera bien difficile de répondre, vous l'imaginez. L'homme, en tout cas, découvre que, contrairement à ce qu'il avait pensé, il partage avec les animaux un très grand nombre de propriétés. Donc la question du propre de l'homme, elle reste posée, mais peut-être que, justement, les humains, en s'apercevant qu'ils partagent un certain grand nombre de propriétés avec les animaux, vont être plus attentifs à eux-mêmes et l'état dans lequel est ce monde et cette planète.
Et voici pour terminer un texte signé Robert Merle.
Le propre de l'homme, est-ce le rire ? Mais les chimpanzés rient aussi. Le propre de l'homme, est-ce la raison ? Mais comment la refuser aux dauphins et aux primates, à qui l'on voit faire tant de choses étonnantes qui ne relèvent pas d'un simple dressage ? Le propre de l'homme, enfin, est-ce le langage ? Mais peut-on le dire encore quand on voit un chimpanzé s'exprimer avec ses mains comme un sourd et muet ?
Un commentaire, Michel Crotzer, pour terminer.
Oui, propre de l'homme. Sans doute à travers les narrations que les humains ont construites, à travers les mythes, ils ont pu se trouver une identité qui se construisait à travers leur passé et qui leur permettait de se projeter dans l'avenir. Ça, je doute que ces normes et identités qu'ont les humains, les animaux puissent en bénéficier, parce que, comme nous le voyions tout à l'heure, s'ils ont un langage, ils n'ont pas un langage dans lequel ils sont historicisés, ces animaux. Ça, c'est sans doute le propre de l'homme.
Merci beaucoup, Michel Kreutzer.
Merci à vous.
Merci à Michel Kreutzer qui va maintenant nous donner des conseils de lecture.
Moi, je suis très attaché d'une part à une histoire qui est l'histoire de l'éthologie en France, qui est un recueil de témoignages de tous les chercheurs en éthologie française, qui s'appelle « Les débuts de l'éthologie en France », qui est paru aux presses universitaires de Nanterre. Puis récemment, j'ai rédigé un ouvrage qui s'appelle « L'éthologie », qui est un que sais-je et qui permet de, depuis l'Antiquité, de voir quelles sont les grilles de lecture qu'on a utilisées pour essayer de comprendre le comportement des animaux.
Marilène Patoumatis est la conseillère scientifique des Saventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet, attaché de production Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. La semaine prochaine, comment sont considérés les animaux ailleurs que dans nos sociétés occidentales? En Amazonie, par exemple, on leur chante des chansons, nous dira Philippe Descola. En attendant samedi, vous pouvez écouter les Saventuriers en podcast, puisque toute la série est d'ores et déjà disponible sur l'appli Radio France.